France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Je monte sur les planches et vous venez me voir.
Sur la scène, il y a l'amour et mes façons d'y croire.
Aujourd'hui, Femmes des années folles, deuxième partie. Comédien, passionné d'histoire moderne, de musical, Norman Barogeli nous présente un beau livre paru aux éditions EPA intitulé « Femmes des années folles », un triple CD sorti récemment chez Frémaux et Associés avec le même titre et un spectacle itinérant, toujours sur le même thème, « Ces femmes des années folles », c'est-à-dire la décennie 1919-1929. Bonjour Norman.
Bonjour Martin.
Alors aujourd'hui, nous allons parler essentiellement des lieux de spectacle de cette époque, des femmes qui les ont hantées, qui les ont animées. Et on va commencer par le music hall, puisque c'est justement une de vos passions.
Absolument. On va faire une tournée dans les établissements de nuit, les établissements de spectacle. Et on va voir comment, pendant les années 20, on pouvait s'amuser d'un lieu à l'autre et passer une nuit entière au rythme des années folles.
Et alors cette soirée, elle pourrait commencer par exemple au music hall. Je parle aujourd'hui du music hall à grand spectacle, celui qui a tellement marqué les mémoires avec ses revues sensationnelles, celle qui anticipait ce que peut-être maintenant on essaie de faire au cinéma avec tous ces effets spéciaux, mais à l'époque il n'y avait pas ça, il y avait que le cinéma muet, et donc on avait de la musique, du bruit, de l'ambiance, des éclairages, des costumes incroyables, des couleurs, tout ça, ça se passait sur les scènes de music hall. Et pour évoquer cela, quoi de mieux que de rendre un hommage à celle qui a été sans doute la plus grande meneuse de revue du music hall des années folles. Je veux parler bien sûr de Miss Tinguette. Et cet hommage, c'est Henri Salvador qui lui rend en 1960 sur la scène de l'Alhambra.
C'était la Miss, la fleur du pavé. L'air narquois, la voix déchiré, des gambettes qui faisaient courir tous les parigots, avec l'esprit de nos titis, de nos moineaux. C'était la miss et son millionnaire, qui charmait les hommes du parterre. Elle mettait dans ses rengaines la verve faubourienne, marchant comme une reine. Dès qu'elle était sur scène, c'était la miss née Faubourg Saint-Denis. C'était une vraie gosse de Paris.
Alors, cher Norman, faut dire d'emblée qu'on ne pourra pas citer tout le monde tellement l'histoire du musical est riche, vaste, protéiforme, ne serait-ce que sur ces années folles, mais après ça continue bien sûr. Donc on va s'arrêter sur des grandes figures absolument indispensables, marquantes. Miss Tinguette, bien sûr, ça commence par elle, puisqu'elle incarne mieux que quiconque cette décennie complètement folle, à tout point de vue, et notamment sur les scènes de music hall, où c'était la surenchère permanente. Il y avait une sorte de slogan, c'est toujours plus beau, toujours du nouveau. Voilà, c'était la concurrence entre les salles, c'est à qui présenterait les attractions les plus incroyables, les scènes les plus improbables, les plus qu'ils allaient chercher aux quatre coins du monde, avec des vedettes aussi parfois qu'on connaissait pas, ou alors celles qu'on connaissait très bien. Il y avait les deux, quoi. Voilà.
Et les revues elles-mêmes presque surenchérissaient les unes par rapport aux autres dans un même lieu, c'est-à-dire que je prends un exemple, quand en 1925 on a la revue Miss Tinguette au Moulin Rouge, après les critiques disent mais c'est tellement incroyable qu'on n'aura jamais plus. Eh bien si, l'an prochain, ils arrivent encore à faire davantage, et encore davantage, et encore davantage. Et ça, c'est absolument fascinant.
Et c'est vrai que les journaux affichaient crânement les publicités avec les chiffres des revues. Donc c'était les directeurs qui disaient, ouais, y a 400 costumes, 50 tableaux, je ne sais combien de figurantes. Enfin voilà, donc il fallait attirer par toute cette notion de gigantisme. Et c'est vrai que Paris était quand même une sorte de plaque tournante de music hall. C'était un des lieux majeurs au monde de création de revues de musicaux. Alors, bien sûr, il y a Broadway, bien sûr, il y a Londres, bien sûr, il y a Berlin, mais Paris occupait quand même un rôle vraiment très, très important, un peu au carrefour de toutes ces influences.
Peut-être on peut, grâce à l'un des commentateurs de l'époque, pousser la porte d'un music hall pour vivre un tout petit peu une soirée au music hall. Qu'en pensez-vous ?
Ah ben, je suis tout à fait d'accord, Norman. Vous qui avez pioché toutes ces questions-là, vous nous avez trouvé des témoignages de première main.
«
On a frappé les trois coups. La lumière baisse dans la salle, le bruissement des spectateurs s'efface, tandis que l'orchestre qui jouait en sourdine attaque de tous ses archets et de tous ses cuivres. Les projecteurs se concentrent en haut de l'escalier, vont chercher une femme vêtue de tulle et de perles que couronne une immense auréole d'aigrettes roses. C'est un instant, mais cet instant résume le music-hall. C'est un instant de charme sensible, de panache et de gentillesse. C'est une entrée de Miss Tinguette. La revue débute par un air que Miss doit mettre à la mode pour vendre partitions papier et disques de cire. Les rideaux s'entr'ouvrent, les girls savamment entrecroisées à l'équerre, puis les boys descendent et font une voûte de leur canne à pommeau de strass. Miss Tinguette, de 8h à minuit, rit de toutes ses dents dont chacune brille comme une ampoule électrique. Elle change 10 fois de robe et 20 fois de chapeau dans la même soirée, danse, chahute, fait le grand écart et le saut périlleux. Et à la voir se livrer à des exercices si fatigants, à une gymnastique si affolante, on éprouve une véritable joie à être assis bien paresseusement dans son fauteuil.
Eh bien, Norman, c'est comme si on y était. Et là, ce sont les critiques de l'époque qui y étaient et qui nous décrivent cette ambiance. Et c'est vrai que Miss Tinguette, à vrai dire, elle avait un magnétisme qui défiait l'analyse. C'est ce que disent d'autres témoins.
C'est ce que dit Georges Tabet, dont on parlera plus tard, mais qui était un témoin privilégié de l'époque, qui a partagé la scène avec Miss Tinguette au Casino de Paris et qui donc explique l'inexplicable, en fait, puisque Miss Tinguette n'est pas la meilleure chanteuse, n'est pas la meilleure danseuse, n'est pas la plus belle, mais... elle a quelque chose en plus. Elle possède le rythme du music-hall, disait René Bizet, un autre critique. Et ça, c'est quelque chose d'imperceptible, mais qu'elle avait et dont l'effet se ressentait sur chaque spectateur et chaque spectatrice.
Alors voici maintenant ce qu'en disait le célèbre musicien Henri Sauguet en 1964.
Miss Tinguette, mon Dieu, n'avait pas particulièrement ce qui s'appelle une voix phonogénique. Elle avait même tout le contraire de ça, et j'ai bien peur que ceux qui ne l'ont pas vue empanachée descendre ses escaliers dans ses revues, dont on n'a aucune idée aujourd'hui, car les revues que l'on donne aujourd'hui ne sont que vraiment des, somme toute, des sortes de pages retrouvées de revues anciennes. Mais à ce moment-là, la revue qui était à son apogée apportait vraiment un spectacle d'une totale nouveauté.
Et un certain art.
Ah oui, un
nouveau.
Art certain, oui. Certain. Et dont Miss Tinguette a été l'animatrice incontestable pendant de très longues années. Eh bien, qui n'a pas vu Miss Tinguette empanachée ou bien au contraire vêtue en pauvresse, se faisant battre par un de ses danseurs, n'est-ce pas, ne peut pas imaginer ce qu'était la présence de Miss Tinguette. Et un disque d'elle l'évoquerait trop mal pour que je consente à faire passer. Alors, à la rigueur, un petit bout de Valencia.
Valencia, je suis une fille étrange, je viens du pays de l'Orange. Valencia, voulez-vous ma fleur d'orange, c'est gentil, frais et léger. Valencia, je ne suis pas une courtisane qui rôde dans les monts. Valencia, j'ai le cœur d'une gitane et je n'ai qu'un seul amour. On sourit quand je passe, je plais à chacun, car j'en baume l'espace de mon doux parfum. Je ne crains aucune rivale, à Paris surtout, car la fleur d'orange, la cigale, y en a pas beaucoup. Valencia, voulez-vous ma fleur d'orange, c'est gentil, frais et léger. Valencia, bien que ça vous paraisse étrange, Valencia ne marche pas. Valencia, je ne suis pas une courtisane qui rôde dans les bourreaux. Valencia, cœur d'une gitane et je n'ai qu'un seul amour. Ces bouquets sont les vôtres, messieurs prenez-les, seulement j'en ai un autre, vous n'aurez jamais. On peut m'offrir une fortune, m'en fiche au combien, oui mais un soir au clair de lune, je le donnerai pour rien. Valencia, voulez-vous ma fleur d'orange, si gentil, frais et léger. suis pas une courtisane qui rôde dans les bois. Valencia, j'ai le cœur d'une gitane et je ne mens pas mon amour.
Et voilà, un célèbre passodoble est composé par José Padilla, le très très célèbre musicien espagnol qui l'on doit une quantité de succès pour Miss Tinguette, comme Ça c'est Paris, qui lui est un one step. Et puis aussi, bien sûr, pour Raquel Meller, la grande vedette du musical, elle-même d'origine espagnole. Donc voilà, je crois que c'est un petit hommage en passant à José Padilla qui le mérite bien. Donc il faut dire que cette chanson a été créée dans la revue Miss Tinguette au Moulin Rouge en décembre 1925. Miss Tinguette est alors à l'apogée de sa carrière.
Et dans cette revue Miss Tinguette, c'est en décembre 1925, juste après l'exposition internationale des arts décoratifs qui s'est tenue à Paris. Et à ce propos, les critiques de l'époque font un lien puisqu'ils disent que les danseuses ont un air très art déco avec leurs jupes à carreaux blancs et noirs lors de cette revue Miss Tinguette en 25.
Et oui, bien sûr, à cette époque, tous les arts s'entremêlent entre les arts décoratifs, le musical. Et d'ailleurs, le musical est considéré souvent comme un creuset artistique dans lequel viennent travailler des créateurs de grand renom. Et ça, c'est très intéressant. On a des peintres, des créateurs de mode,
des stylistes comme Paul Poiret, crois, qui, en 1920, pour Miss Tinguette, justement, dans Paris qui jazz, fait ses premières armes au musical.
Voilà, donc c'était à l'époque, le musical était vraiment un carrefour. Et donc, bon, Miss Tinguette était d'origine très modeste. Elle venait donc de la banlieue et des quartiers très populaires d'Enghien-les-Bains. Et puis, elle a gravi tous les échelons progressivement et assez lentement, il faut bien dire, du spectacle, jusqu'à devenir cette impératrice incontestée du musical. Sa voix était marquée par ses origines, par son accent faubourien. Mais c'est justement ce qui plaisait à des personnages comme Jean Cocteau, qui fait son éloge à plusieurs reprises et loue, par exemple, son souci de l'articulation pour être comprise de tous les spectateurs.
C'est Norman. Peut-être ce qui la rend pas si phonogénique que ça, pour reprendre le terme d'Henri Sauguet, parce qu'effectivement, s'adresser à une salle de 2000 places nécessite une certaine qualité d'articulation que ne réclame pas le phonographe.
Et en plus, à l'époque, on chantait sans micro.
Qui plus est, bien sûr, c'était tout à fait sans micro.
C'est vrai que Miss Tinguette, qui offrait aux spectateurs un kaléidoscope de tableaux complètement différents, c'est-à-dire qu'elle pouvait aussi bien être la déesse empanachée avec 2 mètres de plumes sur la tête, après être une pauvresse battue, ou au contraire être une danseuse très dans le vent qui épousait les derniers rythmes à la mode comme le Charleston. Et donc, cette Miss Tinguette incroyable sur scène était aussi incroyable dans la vie, puisque on peut dire qu'elle était absolument omniprésente. C'était la star, quoi.
Oui, elle avait une présence médiatique calculée, une omniprésence médiatique même. Et chacune de ses apparitions créait l'événement, était suivie par les journaux, que ce soit à Deauville, au Dancing, à Berlin, au concours d'élégance, à Londres, sur les terrains de sport, en auto, en moto, au cinéma. Elle était absolument partout, Miss Tinguette. Elle occupait totalement le terrain médiatique.
Elle était assez en avance, on peut dire.
Oui, elle a fait vraiment d'elle-même une sorte de marque, une sorte de produit à offrir au public. Et public qu'elle avait extrêmement large, puisque venaient aussi bien l'applaudir des têtes couronnées que des ouvrières et des gens du faubourg, de ce faubourg qu'elle a quitté elle-même.
Alors, depuis le début des années 20, elle est devenue donc une meneuse de revue à part entière, au Casino de Paris d'abord, puis au Moulin Rouge, qui l'a recrutée comme vedette en 1925, mais aussi comme directrice artistique et même responsable de l'atelier de costumes. Et ça a duré jusqu'en 1928, puisque en 29, le Moulin Rouge devient un cinéma parlant. Alors, Miss Tinguette revient au Casino de Paris pour plusieurs saisons, et elle fait une grande revue qui s'appelle tout simplement Paris Miss. Et dans cette revue, elle chante un one step qui s'appelle Qu'est-ce que j'ai donc ?
Aux Champs-Élysées, quand on va passer, les hommes s'empressent de se retourner. Quand le long des clous, je traverse tout à coup, à mon passage, l'embouteillage est fou. Je fais tant d'effets que l'agent distrait en avale son sifflet. Qu'est-ce que j'ai donc ? Qu'est-ce que j'ai donc ? Qui trouble les garçons? Est-ce mon petit nez tout retroussé, mes grands yeux étonnés? Qu'est-ce que j'ai donc? Qu'est-ce que j'ai donc? Je suis Paname, là la raison. Et les vraies parisiennes, c'est l'exception. L'autre après-midi, j'étais au Berry.
J'appelle le garçon pour prendre un chéri avec son plateau rempli d'apéro pour me servir. Il arrive aussitôt, il m'aperçoit tremblant, dis-moi, il renverse tout sur moi, le cochon. Qu'est-ce que j'ai donc qui trouble le garçon? Est-ce mon petit nez tout retroussé, mes grands yeux étonnés? Qu'est-ce que j'ai donc? Qu'est-ce que j'ai donc? Je suis paname, v'là la raison. Et les vraies parisiennes, c'est l'exception. Devant l'Élysée, l'autre jour je m'arrêtais, quand je vis un monsieur qui me regardait. Il parut surpris et tout bas me dit, avec un très bel accent du midi, quel beau mollet. Je me retournais, c'était notre Gastounet, je connais pas l'accent. Qu'est-ce que j'ai donc, qu'est-ce que j'ai donc qui trouble le Gaston? Est-ce mon petit nez tout retroussé, mes grands yeux étonnés? Qu'est-ce que j'ai donc? Qu'est-ce que j'ai donc? Je suis paname, v'là la raison. Et les vraies parisiennes, c'est l'exception.
Alors, on se souvient tous de Miss Taguette comme impératrice du music hall des années folles, mais il faut quand même dire, Norman, qu'elle n'est pas la seule à l'époque, elle est loin de là. Parce qu'il faut citer d'autres vedettes qui, certes, sont un peu oubliées, mais qui ont eu leur heure de gloire. Je pense à Jeanne Marnac, qui a été vedette au Casino de Paris en 1923. On peut même dire que c'est elle, je crois, la première qui a fait un tableau sur un grand escalier qu'elle descendait.
Il paraît, oui. Ouais. Escalier que l'on doit à Jacques Charles, auteur et promoteur de ces revues, mais il paraît oui, que c'est la première à descendre ce grand escalier absolument vertigineux, parce qu'il faut se rendre compte que pour que cet escalier ait l'air justement si haut, il fallait que les marches soient très étroites, puisque les scènes de ce théâtre étaient très petites. C'est incomparable avec ce qu'on a aujourd'hui dans les grands théâtres où il y a des grands spectacles. Le Casino de Paris, le Moulin Rouge, même les Folies Bergères. Surtout les Folies Bergères. Le plateau est petit. Donc, pour caser un escalier qui doit en imposer, eh bien, les marches sont très, très étroites. D'où la difficulté de descendre pour les meneuses de revue et les girls, de descendre ces escaliers sans regarder ses pieds, évidemment, en regardant chaque spectateur, chaque spectatrice dans les yeux, avec 20 kilos de plumes sur la tête. C'était un exercice tout à fait périlleux. Oui. On dit également que sur 3 heures de spectacle, une meneuse de revue comme Miss Taguette ou comme Jeanne Marnac n'avait en réalité que 6, 7, voire 8 grand maximum apparitions de 5 minutes. Donc finalement, elle n'était pas là du tout sur toute la durée du spectacle. Mais son apparition devait prendre le public dans son entièreté et elle devait vraiment être l'idole que le public attendait.
Et voilà donc les recettes des revues de music hall qu'on doit à des gens comme Jacques Charles et qui savaient parfaitement les construire. Eh bien, c'était de ménager l'apparition de la vedette à des moments bien précis pour des tableaux très, très étudiés, très bien fabriqués, très bien mis en scène et très variés surtout. C'est ça qui comptait, c'était d'offrir aux spectateurs une telle diversité de sujets que chacun en avait pour son goût et son argent, en quelque sorte. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que ces programmes de music hall s'enchaînaient au rythme des revues tous les 6 mois, selon leur succès. C'était pas du tout comme les revues du Moulin Rouge aujourd'hui qui durent des années, c'est toujours la même. Alors que là, vraiment, il y avait un renouvellement très significatif. Et donc, par exemple, entre 2 revues de Miss Taguette, on a vu une revue en 1927 avec Florel, qui elle-même avait fait une jolie carrière dans différentes salles de music hall. Et donc, elle fait la 2e version de la revue Ça, c'est Paris. Et dans cette revue, eh bien, elle chante un titre un peu réaliste, un peu désabusé, qui s'appelle « Certains soirs », qu'elle a enregistré donc, en 1927.
France Musique. Tour de chant. Martin Penet.
Arrivé d'air du train.
les soirs au casino, il danse le foxtrot et le tango. Il fait du champagne dans des tours, mais ne boit que de l'eau. Moi, quand je les vois prendre leur plaisir, je sens naître en moi des désirs. Avoir des toilettes, des bijoux, ça me semblerait si bon.
Une belle chanson signée Jean Lenoir, Paroles et Musique, à qui on doit d'ailleurs beaucoup, beaucoup de succès de ces années-là. Et Norman Barogeli, bon là on parle du côté un peu brillant du musical, mais quoique dans cette chanson, on a déjà un petit Roland désabusé. Donc c'est vrai que l'histoire du musical, c'est pas que les... Pas que les paillettes, que les plumes, les strass, les escaliers, la belle musique, c'est pas que les vedettes.
Bah, disons que derrière ces plumes, ces strass, ces escaliers, il y a aussi beaucoup de souffrance, puisque pour produire tant de rêves à tant de spectateurs, il faut bien des usines. Et pour faire tourner les usines, il faut des ouvriers, des ouvrières, et en l'occurrence, là je veux parler de toutes les girls qui entrent au music hall en espérant devenir vedettes. Mais combien d'élus le sont ? Très 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 peu. Et en réalité, ces jeunes filles sont épuisées par des années à passer dans des coulisses, à respirer l'air vicié des music halls, la fumée des cigarettes, la poussière de verre provoquée par les résidus de brillantine dont on recouvre les décors afin qu'ils puissent briller sous les projecteurs, respirer la poussière. Et ça crée vraiment des vies brisées chez toutes ces jeunes filles qui aspiraient à des rêves de gloire.
Bon, ça évidemment, c'est la face un peu noire du music hall, mais qui existe aussi. Bon, on va quand même revenir à la face brillante et en évoquant d'autres vedettes encore qui méritent d'être honorées pour qu'on ne les oublie pas. Je pense par exemple à Jeanne Aubert qui s'est également produite au Moulin Rouge dans les années 20. Elle a eu une belle carrière de musical assez fournie depuis le début de la décennie dans différentes salles parisiennes. En 1925, au concert Mayol, elle était la vedette de la revue Très Excitante, où elle a créé le refrain « Si tu vois ma tante ». Ensuite, elle a eu une belle carrière à Broadway, imaginez-vous, sous le nom de Jeanne Aubert.
Elle chantait Cole Porter à Broadway, elle chantait des grands compositeurs américains dans des revues de Broadway.
En 1926-27, c'est incroyable. Ouais. Quoi. Et puis, donc, elle est revenue à Paris, et notamment au Moulin Rouge, dans la revue Paris aux Étoiles, en novembre 27, où elle chantait la chanson « Monsieur, prenez-moi ». Tout un programme.
Il faut céder dans la ce n'est pas moi, c'est un petit miroir dressé. Et à ma photo de l'autre côté, monsieur, prenez-moi et gardez-moi sur votre cœur. Emportez-moi, je vous protégerai.
Voilà, c'était Jeanne Aubert qui eut également beaucoup de succès durant tout l'entre-deux-guerres. Et ce qu'il faut dire, Norman Barogeli, c'est qu'une revue à grand spectacle comporte, donc on l'a compris, énormément de monde sur scène, un enchaînement de tableaux avec différentes attractions extrêmement variées. Et parmi ces attractions, j'ai envie de citer des exemples comme des danseuses, par exemple, il y avait des jumelles ou des sœurs. On peut parler des Dolly Sisters, qui étaient deux danseuses d'origine hongroise, partenaires notamment de Maurice Chevalier à l'Empire en 1925, qui ont impressionné le public par leurs costumes, leur coiffure à la garçonne, justement, et qui ont vraiment défrayé la chronique mondaine. C'était des attractions, quoi. Mais aussi, aussi bien à la ville qu'à la scène.
Elles étaient très célèbres à l'époque, ces Dolly Sisters.
Ouais. Alors, elles n'ont pas enregistré, parce qu'elles étaient danseuses, mais d'autres sœurs l'ont fait, donc d'autres duos féminins, qui, elles, se produisaient, par exemple, dans les revues du Moulin Rouge et des Folies Bergères. Alors, il s'agit de Dolly et Billy, deux sœurs américaines, fantaisistes aux voix espiègles, on va pouvoir en juger, sur lesquelles, à vrai dire, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'elles ont gravé quelques faces de disques chez Odéon en 1927. Vous avez peut-être des choses à nous ajouter, Norman ?
Oh, les directeurs du Moulin Rouge les ont repérées au cabaret Le Café de Paris à Londres, et donc, effectivement, elles sont venues en France, et les gens les adoraient, car, dixit les critiques, elles avaient de la joie dans les yeux.
Bonjour, c'est la finale. Si vous voulez gagner un petit bébé, bonjour, c'est la finale. Mettez vos pieds en vos chaussures. Nous sommes là, je vous pourrai. Nous ferons trois.
On dirait Marilyn avant l'heure.
Absolument. Oui, c'est vrai qu'on avait déjà ce côté ce côté à l'américaine qui parle un petit peu de français avec ce côté très très charmant. Et à côté de ça, c'est pas flagrant sur ce disque, mais on raconte qu'elles étaient étourdissantes de fantaisie et qu'elles faisaient rire les spectateurs. Peut-être avec cet accent d'ailleurs.
Alors il y en a une qui, je pense, qui amusait beaucoup les spectateurs aussi, dont on n'a pas encore parlé, et je me doute que vous l'attendez avec impatience.
Évidemment. C'est
Joséphine Baker, donc, qui est arrivée à Paris en 1925. À l'automne 1925, pour être précis, avec la troupe de la Revue Nègre, donc recrutée à Broadway. Elle était à peine âgée de 19 ans. Donc il n'y avait que des artistes noirs, comme son nom l'indique, dans ce spectacle qui a été monté au Théâtre des Champs-Élysées. Et alors il se trouve qu'elle a été propulsée vedette du spectacle en raison de ses talents de danseuse, de sa personnalité très excentrique et bien sûr de sa plastique. Et parce qu'au départ, elle était simplement parmi les autres, quoi. Et puis donc c'est Jacques Charles qui avait été appelé à la rescousse, le grand metteur en scène des revues du Moulin Rouge, entre autres, qui a décidé de la mettre en avant.
Oui, ce qu'elle a refusé d'abord, paraît-il, parce que elle lui a imposé de danser nue, une danse sauvage avec pour partenaire Joey Alex. Donc elle n'a pas eu le choix que d'accepter, mais...
En pleurant beaucoup,
exactement. Mais elle l'a fait, et elle l'a fait d'une façon excentrique, pour reprendre votre terme, et elle l'a fait avec sa personnalité. C'est-à-dire que, oui, elle s'est pliée à ce désir sexualisé, à cette demande des promoteurs de la revue pour les spectateurs français qui allaient être ravis de voir une belle jeune femme noire s'exhiber ainsi sur scène. Et elle l'a fait à sa manière, à savoir en roulant des yeux, en faisant des grimaces, en envoyant ses jambes plus haut que sa tête, en ayant une attitude tout à fait singulière qui va désamorcer la charge sexuelle que l'on souhaitait porter sur elle. Et ça, c'est absolument important, et je pense que c'est pour ça qu'on se souvient, dès ce départ en 1925, de Joséphine Baker.
Et donc la Revue Nègre est partie en tournée, mais elle a abandonné la tournée en cours de route parce qu'elle a été embauchée discrètement par Paul Derval, le directeur des Folies Bergères, pour être une des attractions de la revue La Folie du Jour. Et dans cette revue, elle danse un Charleston endiablé. Elle apparaît également dans un tableau de Forêt Vierge. Et c'est là qu'elle porte pour la première fois, et c'est pas au Théâtre des Champs-Élysées dans la Revue Nègre, c'est bien aux Folies Bergères en avril 1926, qu'elle porte pour la première fois sa fameuse ceinture de banane. Elle reviendra l'année suivante, toujours aux Folies Bergères, dans la revue Un vent de folie. Et à cette époque, donc elle ne chante pas sur scène, elle danse simplement. Par contre, elle enregistre des disques en anglais, puisque là, son français est quand même encore assez approximatif. Et par ailleurs, comme elle est prise en main par un impresario italien très très dynamique, on peut dire, qui s'appelle Pepito Abatino, et qui décide pour elle d'ouvrir un cabaret à son nom, qui s'appelle Chez Joséphine Baker, rue Fontaine, et le cabaret en question, où elle... à l'honneur de sa présence tous les soirs après le spectacle des Folies Bergères, eh bien, ce cabaret est animé par un orchestre de jazz de musiciens belges formidables, qui s'appelle Léon Jacob. C'est lui qui l'accompagne sur les disques qu'elle enregistre en 1927 chez Odéon, dont on va écouter un exemple, Blue Skies, grand succès américain de l'époque.
Thank you.
Alors ça, pour moi, ça fait vraiment rêver, quoi, ce genre de morceau.
Oui, c'est très, très évocateur. On a vraiment le jazz, on a l'exotisme, on a la voix américaine de Joséphine Baker, on a cette personnalité qu'on devine derrière son chant. C'est vraiment un
chant encore assez fragile, mais c'est très émouvant en même temps.
C'est très émouvant. C'est très, très émouvant.
Il va s'affirmer, bien sûr, au cours des années 30, avec tous les succès qu'on connaît en français, où là, entre-temps, elle aura pris des cours de chant quand même. Et donc, on a abordé quand même quelques grandes vedettes du musical, les principales de ces années folles. On a évoqué des établissements très importants comme le Casino de Paris, le Moulin Rouge, les Folies Bergères. Mais il en est d'autres de taille plus modeste, tout aussi intéressants, comme le Palace, rue du Faubourg-Montmartre, qui a rouvert, donc on le sait, il y a quelques années, mais donc qui avait été fermé pendant un bon moment. Mais donc, lui, il a été créé dans les années 20, au tout début des années 20, et il a présenté de très belles revues. Et cela nous permet de parler d'une vedette internationale d'origine australienne que vous aimez bien, je crois, Norman, parce qu'elle s'appelle Jenny Golder, et qui était saluée par les critiques pour son excentricité sur scène.
Oui, on disait qu'elle avait les grands yeux de Max Linder, qui était une des stars du cinéma muet de l'époque, les dents de Miss Tinguette, qu'elle dansait d'une façon tout à fait étonnante, inspirée par le jazz et par les mouvements africains, et qu'elle était surtout très gaie. Elle parlait très très mal le français, ce qui amusait la galerie. Et elle avait une attitude qui avait l'air de dire au monde « Je me fiche de comment je suis, je suis. » Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va caractériser beaucoup de nos femmes des années folles, puisque c'est quand même le titre de nos émissions. C'est une façon de s'affirmer en étant soi-même. Et ça, Jenny Golder, elle est à la fois extrêmement gracieuse et extrêmement vulgaire, exubérante, fantaisiste. Elle a une joie de vivre tout à fait communicative.
Alors, elle aurait dû faire une carrière formidable avec toutes ses qualités, et sauf qu'elle s'est suicidée au printemps 1928 pour un chagrin d'amour, vous vous rendez compte. Et donc, évidemment, ça a plongé tous ses innombrables admirateurs dans une stupeur absolument inconsolable. Donc, on va lui rendre hommage. La voici en 1927 dans une chanson bilingue qu'elle a enregistrée, elle aussi, chez Odéon, avec un très bel accompagnement.
France Musique. Tour de chant, Martin Penet.
Quand on vient de l'Angleterre, d'Amérique ou d'autres terres, même si l'on aime tous ces pays, on n'arrive pas ici. Pour les femmes, pour les amants, les nobles, les manants, les riches en auto, même pour ceux qui prennent le métro. Paris, Paris, dans le public français, je n'oublie pas déjà ma paix. Tous mes premiers succès, pour tout ça qu'il te voilait, ici à Paris, merci. Okay.
keep New York and Baltimore. You can keep the roses round the door. Give me Paris in the bouquet.
Voilà, Jenny Golder dans ses exploits.
Formidable, formidable. Et vraiment, on peut vraiment souligner la qualité de l'orchestre qui accompagne, que ce soit elle ou Joséphine tout à l'heure. Ces musiciens dont souvent ils sont totalement inconnus, anonymes, mais qui s'emparent de ce jazz naissant, de ces syncopes, et qui en font quelque chose d'absolument admirable.
Alors, parmi les musiciens intéressants de cette époque-là, qui sont promis un bel avenir, je voudrais citer Georges Tabet, que vous connaissez parce qu'il a fondé un duo avec Jacques Pils plus tard dans les années 30. Donc les fameux Pils et Tabet, ils ont eu un succès considérable. Jacques Pils qui deviendra le mari d'Edith Piaf dans les années 50. Et donc ce Georges Tabet qui était pianiste de jazz, compositeur et chanteur, il a écrit un merveilleux livre de souvenirs que vous avez cité d'ailleurs à propos de Miss Tinguette. Eh bien, lorsqu'il a écrit son livre de souvenirs en 1980, il a été interviewé sur France Inter, et le voici évoquant justement ce fameux palace où se produisaient quelques vedettes, dont Jenny Golder, et une qu'il va nous présenter.
J'ai connu le palace aux environs de 1919-1920, où j'étais un petit jeune homme, comme on dit. C'était le commencement de la revue à grand spectacle, n'est-ce pas ? Avec des femmes emplumées, avec des strass, etc., et des aigrettes. Et la vedette de ce spectacle, qui je crois s'appelait « Oh les belles filles », était une chanteuse qui s'appelait Jenny Golder. Et ensuite, alors il y a eu une très très grande vedette dont vous avez certainement entendu parler au Palace, dans une revue de Dufresne et Varna, et cette grande vedette s'appelait Raquel Meller. Et si je vous rappelle les airs qu'elle a créés, qui sont encore dans toutes les mémoires, vous allez très bien savoir de qui je parle. Elle chantait une chanson qui s'appelait « La Violettera ». Ta la di da 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 da, ti la di da 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 da. Acceptez mes violettes, c'est du bonheur qu'on achète. Le bon Dieu vous le rendra. Et puis aussi cet autre passo doble sur lequel on dansait dans tous les dancings de Paris. Ta la di da di da di da da da, ti la la di da 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 da. Ça s'appelait El Relicario, n'est-ce pas, le reliquaire, n'est-ce pas? Et cette Raquel Meller est devenue vraiment une très très grande vedette mondialement connue.
Comme avait fait pour Sora de primavera et Madrid apparece la violetera que pregona. Que van piando, llévelo este señorito, que no vale más que un real, llévelo este señorito, cómpreme usted este ramito, para lucirlo en el ojal. Lo que se dice un tipo de madrileña, neta y casita, que si entorna los ojos te cause vida, te cause vida. Señorita.
Et voilà, c'était donc la voix délicieuse et caressante de Raquel Meyer, hein, qui était, à vrai dire, une beauté, qui avait de tendres yeux noirs, une bouche exquise, qui était fine, qui était brune. Enfin là, je cite les témoignages de l'époque. Et elle était à Paris déjà depuis un moment, parce que donc elle est passée au Palace à la fin des années 20, mais avant cela, elle est arrivée à Paris en 1920 pour débuter à l'Olympia, donc après avoir fait déjà un début de carrière en Espagne très conséquent. Et puis elle va être adoptée par les Parisiens pendant plus de 15 ans. Elle a même tourné plusieurs films muets, dont Violettes impériales et La Terre promise d'Henri Roussel. Et elle s'est produite sur toutes les grandes scènes parisiennes, donc l'Olympia, l'Alhambra, le Palace, le Casino de Paris.
Et je crois qu'elle avait un truc pour se faire adopter des Parisiens. En 1920, lors de son arrivée à l'Olympia, c'est qu'elle changeait de robe à chacune de ses chansons. Et ça, les gens trouvaient ça absolument formidable d'avoir cette chanteuse qui, dans son tour de chant, partait vite en coulisses, se changeait et revenait totalement transformée pour la chanson suivante.
Avec des tenues traditionnelles espagnoles, je crois.
Qui plus est, oui.
Et je crois même que ces chansons étaient annoncées, parce que comme elle chantait en espagnol, je crois que les chansons étaient expliquées pour qu'on puisse en apprécier... tout le sel. Et donc, on peut dire qu'en fait, grâce à Raquel Meyer et d'autres, que le musical était complètement irrigué d'exotisme. Finalement, c'était un des ingrédients de tous ces tableaux. Il fallait des tableaux enchanteurs qui nous montraient des contrées improbables, lointaines, qu'on verrait jamais, quoi, finalement, sauf sur scène.
Le musical était une fenêtre ouverte sur le monde, comme l'était également le cinéma à cette époque. Et d'ailleurs, il se tirait la bourre, le cinéma, le musical, comme l'étaient les expositions universelles, etc. Et donc, pendant ces années folles, on commence vraiment à avoir accès à un monde beaucoup plus grand que celui de la France. On commence vraiment à avoir accès au monde dans sa globalité.
Et alors, ces contrées lointaines, c'était, par exemple, parmi nos colonies, il y avait tout le Maghreb. Et donc, dans ce Maghreb, il y avait des tas de figures qui irriguaient aussi la chanson. Et puis même le cinéma, parfois jusqu'à Hollywood, comme par exemple le fameux film Le Chèque.
Et oui, avec Rudolph Valentino, l'idole totale des femmes des années folles, pour le coup, puisqu'on parle toujours d'elle. C'était vraiment, il était d'une grande beauté et il a vraiment parcouru ces années 20 un petit peu comme une comète, mort à la fin de la décennie.
Exactement, et donc la chanson du film Le Chèque a été traduite en français, c'est une chanson écrite sur la musique qui permettait d'accompagner ce film muet, et donc cette chanson a été très célèbre dans l'immense Sahara, etc. etc. Oh. Oui, oui. Pour chercher Antinéa, exactement. Mais donc pour rester dans nos créations parisienne. Il y avait également des auteurs de chansons très populaires appelés Bennec et Dumont qui ont fait une série de foxtrots orientaux. Et parmi ceux-là, il y en a un très 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 célèbre.
Nuit de Chine.
Et alors vous nous avez trouvé, dans votre CD sorti chez Frémaux, une version d'époque.
Oui, chantée par une femme, puisque c'est quand même le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Et donc par Berthe Delny, qui était une chanteuse célèbre de l'époque.
Oui, alors elle est un peu oubliée parce qu'elle faisait comme surtout des reprises. Elle n'a pas un grand répertoire propre, mais en tout cas, cette version de Nuit de Chine est précieuse.
Elle l'interprète très bien.
Mon amour à finir reste un pauvre lui. Lorsqu'un mot dort, par heureux et les emporte jusqu'aux yeux dans un nuage merveilleux et bleu, loin des champs, loin des bruits, dans le soir qui s'enfuit sur la note endormie, le bourreau.
Et voilà donc un enregistrement de 1923, la création de cette chanson « Nuit de Chine ». Est-ce que ça vous fait rêver aujourd'hui, Norman?
Bien sûr, toujours, toujours, avec ces instruments qui ont l'air de sortir. D'autant plus que là, se superpose au rêve d'exotisme, le rêve d'une époque lointaine. C'est encore de l'enregistrement acoustique, c'est encore quelque chose de très particulier qui a été enregistré sans électricité, où on a l'impression, malgré les craquements du disque, d'être au cœur du studio d'enregistrement. C'est tout à fait évocateur.
Et ce qui est évocateur également, c'est la vogue du tango, qui lui est authentiquement argentin et qui était déjà arrivé à Paris avant la guerre de 14, mais qui redémarre de plus belle après la guerre et qu'on exécute un petit peu partout dans les dancings, on donne des cours et ça envahit également la chanson, même les bals musettes. Donc c'est vrai que le tango est une sorte de frénésie qui parcourt toutes les années 20 et qui, bien sûr, continuera bien au-delà. Et pour finir cette évocation des musicals, j'ai envie de vous diffuser un bel exemple écrit sur les motifs du très célèbre Adios Muchachos, qui a été donc créé à Buenos Aires par Carlos Gardel en 1928. C'est l'année où il est venu pour la première fois à Paris. Il a chanté à l'Empire, et d'ailleurs il reviendra plusieurs fois. Il chantera également au Palace quelques années plus tard. Et donc cette version de Adios Muchachos, traduite en français, eh bien, c'est pas Carlos Gardel qui l'a enregistré, c'est Bert Silva en 1930, et ça s'appelle Adieu Paris.
Adieu Paris, je me retire à la campagne, l'ennui me gagne à cette champagne. J'en ai soupé d'aller souper avec des poules et de rentrer comme si le pavé faisait de la houle. Adieu Paris, car j'en ai par-dessus la tête, faire la fête, oh que ça m'embête. Je vais me mettre au vert, vivre comme les bêtes, me coucher tôt et ne plus boire que de l'eau. Oui, mais avant que je te quitte et de vivre en ermite, tout là-bas, loin de toi, aux villes des merveilles, encore une fois, vidons une bouteille, une pluie de pluie trois. Oh, la drôle de chose, dès qu'un bouchon explose, tout est beau, tout est rose, profitons-en, garçon, apportez-moi la carte, il faut, et aïdons, faire avant que je parte un grand gueuleton. Adieu Paris, ville de rêve et d'épouvante, ville méchante, ville charmante, tu fais payer bien cher le bonheur que tu donnes, mais en mourant, on t'aime tant qu'on te pardonne. Adieu Paris, adieu Montmartre et Notre-Dame, des jolies femmes, des villas de rame, toute l'éternité nous te donnons nos hommes, leur paradis, c'est le ciel de Paris.
Adieu Paris, adieu Montmartre et Notre-Dame, des jolies femmes, des villas de rame, toute l'éternité nous te donnons nos âmes, leur paradis, c'est le ciel de Paris.
Et voilà, adieu Paris. Pas pour très longtemps, Norman.
Mais non, on se revoit bientôt.
Bah oui, il faut continuer cette évocation du Paris des années folles.
Cette promenade nocturne.
Cette promenade nocturne, parce qu'après les musicals, il y a les cabarets.
Et oui.
Et il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup de chanteuses dans les cabarets. Norman Barrogelli, je rappelle que vous avez donc fait un beau livre aux éditions EPA intitulé « Femmes des années folles », qui est complété par un triple CD paru récemment chez Frémo et Associés avec le même titre, et également un spectacle itinérant sur le même sujet qui vous passionne, donc cette évocation des années folles à travers ces figures féminines dont nous continuerons à parler prochainement.
À bientôt.
Merci Norman. Tour de chant, une émission de Martin Penet, avec le concours de Jeanne Lerch à la préparation, Éric Boisset à la prise de son et Noé Mignard à la réalisation. Merci aux documentalistes de l'INA pour leurs précieuses archives. France Musique.